Bonjour à tous. J'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui « Qui écouter ?» Point d'interrogation, qui écouter ? Je suis parti d'une base très intéressante sur le sujet, le livre des Proverbes, qui est un livre, alors s'il y en a ici quelques-uns qui ne sont pas familiers avec la Bible, c'est un livre assez facile à trouver, car en général, quand on ouvre la Bible vers le milieu, on tombe dessus. Si on n'est pas tombé dessus, il y a de grandes chances qu'on soit tombé sur le livre des psaumes. Bah, c'est le livre qui suit le livre des psaumes. Donc c'est assez facile de trouver le livre des proverbes. Ce livre est assez connu, il est rempli de pas mal de proverbes, tout simplement, de remarques très intéressantes, de sagesse, qui nous poussent à la réflexion et qui cherchent à nous faire grandir. Son but au livre des Proverbes est assez simple, c'est d'enseigner aux hommes la sagesse, de les éduquer en vue d'être justes, de vivre selon le droit et de vivre selon la droiture. En fait, c'est un livre qui nous concerne tous, mais qui ce matin va concerner plus particulièrement ceux qui débutent dans la vie. Et j'ai en tête là les jeunes de notre Église. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que le groupe de jeunes reste et on devrait être rejoint rapidement par les préados. Ce qui va nous intéresser ce matin, c'est le chapitre 1, donc le commencement du livre, c'est assez simple, mais plus particulièrement l'ensemble des 9 premiers chapitres où l'on trouve une introduction et où on va trouver 12 discours. 12 discours dans lesquels un père s'adresse à ses fils. Et c'est pour ça que ça concerne les jeunes ce matin. À ses fils, il s'adresse à ses enfants, ou alors il est aussi possible que ce soit un maître qui s'adresse à ses disciples, car à l'époque, il était courant que le maître appelle ses disciples ses fils. Donc on ne le sait pas. Dans tous les cas, c'est très intéressant de considérer ceux qui se lancent dans la vie et d'être enseignés dans la sagesse. Qui écouter ? Qui écouter ? C'est un refrain qui va revenir régulièrement tout au long de la prédication. Parce qu'en fait, on écoute toutes sortes de personnes. Quand on est enfant, dans un premier temps, on va écouter plutôt nos parents. Enfin, je l'espère, avec les fameuses règles. Alors ça, tu peux le faire, mais ça, il ne faut pas le faire. Et puis l'explication de pourquoi. Quand on grandit et qu'on devient un jeune, on va se mettre à écouter d'autres personnes que nos parents. On va se mettre à écouter nos copains d'école et l'influence qui va avec. Mais quand on est adulte, on écoute toujours d'autres personnes, des personnes dites importantes, celles qui écrivent des livres ou qui sont sur les réseaux sociaux. On va lire des articles de spécialistes de certains sujets, etc., etc. Tout au long de notre vie, nous allons écouter divers catégories de personnes. Et le texte de ce matin pose cette question « Qui écouter ?» avec une catégorie de 3 types de personnes différentes qui s'adressent à nous. La première catégorie, ce sont les parents. La deuxième catégorie, je l'ai nommée les influenceurs. Et la troisième catégorie, c'est la sagesse. Les parents, les influenceurs et la sagesse. Alors, qui écouter ? Lisons dans un premier temps les parents avec le livre des Proverbes, chapitre 1, les versets 8 à 9. C'est donc le premier discours. « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. » Là, les parents, ils sont contents, là. Car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. On va déjà s'arrêter sur ces 2 premiers versets, car ils sont très intéressants. C'est premièrement dans le cadre de la famille que l'enfant acquiert la sagesse, ou à minima les bases de la sagesse. C'est le cadre où l'on pose les bases de la vie, où l'on explique ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, les enfants ont plutôt tendance, en grandissant, à de moins en moins écouter leurs parents, avec des arguments tous très connus. « Oh, mes parents, ils sont un peu vieux maintenant. Ils comprennent pas ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. Ce sont des boomers. Ils sont déconnectés de notre monde. » Avec le fameux argument « Oui, mais moi, quand j'étais jeune... »« Ouais, mais toi, quand t'étais jeune, on s'en fout un peu, en fait. » Ça n'intéresse pas les jeunes parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde que lorsque nous, nous étions jeunes. Derrière cette réflexion peut se cacher une autre réflexion, bien moins sage. Ils sont bien gentils, mes parents. Mais moi, je sais ce que eux ne savent pas. Je vais vous raconter une histoire qui est fictive, hein, heureusement. Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'histoire d'un grand-père qui décide d'amener sa petite-fille au zoo. Jusque-là, c'est super, ils passent un bon moment ensemble. Arrive le moment où ils arrivent devant la cage aux fauves. Sauf que la petite-fille, ben, elle est assez petite et menue. Et donc, elle arrive à passer, hop, entre les barreaux de la cage. Son grand-père, lui, il est trop grand, il ne peut pas passer. Donc, il lui dit « Non, reviens, écoute-moi. Là où tu es, c'est dangereux pour toi. » Mais comme un air de défi, elle le regarde et brave l'interdit. Arrive ce qui doit arriver, la petite fille est déchiquetée. Ça vous fait sourire, mais c'est assez révélateur de la société dans laquelle on évolue. On n'écoute plus nos anciens, ceux qui ont vécu des choses, parce qu'on croit qu'on peut faire notre propre expérience. George Santayana, qui est un philosophe d'Harvard, a écrit cette phrase très connue : « Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. » Ce que Winston Churchill reprendra sur le terme, la notion des nations : « Les nations qui ne savent pas se souvenir de leur passé sont condamnées à le répéter. » L'histoire avec un grand H. Non, notre histoire, elle est nécessaire, tout comme celle de ceux qui nous ont précédés pour nous faire grandir, pour nous faire cheminer, parce qu'ils savent des choses que l'on croit savoir, mais qu'en réalité, on ne sait pas. Mes parents me faisaient remarquer un jour qu'ils sont une génération qui n'a pas connu la guerre. Alors, on pourrait dire si, d'une certaine manière, ils ont connu la guerre froide, mais ils n'en ont pas senti les retombées, quoi. Ils ne l'ont pas vraiment vécu. C'était une guerre vraiment un peu dans le secret. Et ma mère me disait, ben, j'ai appris de mes parents qui, eux, ont vécu la Seconde Guerre mondiale et qui m'ont appris comment on vivait en temps de guerre. Sans cette expérience, on ne le saurait pas. Cela nécessite des échanges intergénérationnels. Et oui, c'est important. Important même lorsque l'on n'a pas vécu à la même époque. Car l'histoire des autres est source de richesse pour nous tous. L'histoire des autres est source de richesse pour nous tous. Ces conseils, nous dit le sage, ils apportent honneur et beauté morale à celui qui les écoute et qui les met en pratique. On peut entendre de bonnes choses, mais on peut ne pas avoir écouté. La différence entre entendre et écouter. Vous savez, vous connaissez cette expression, hein ? C'est rentré par une oreille et c'est ressorti par une autre. Parfois, je me pose souvent la question, que reste-t-il des prédications d'hier ? Des prédications de dimanche dernier ou du mois dernier ? Qui s'en souvient encore ? Moi, il m'arrive d'oublier même ce que j'ai dit. C'est triste. Que reste-t-il de ce qu'on retient ? De l'enseignement que l'on tire. L'écoute, elle conduit à la remise en question. Elle conduit à voir les choses différemment. Elle conduit à la mise en pratique de ce qu'on a écouté. Des messages, des mises en garde, des conseils. On peut avoir la tentation de croire que ces deux premiers versets ne s'adressent qu'aux enfants. Et d'ailleurs, les parents pourraient être tentés d'en tirer avantage. Tiens, ah! Est-ce que tu as bien écouté ce qu'a dit le pasteur ce matin ? Les enfants doivent écouter leurs parents. Tu dois m'écouter. Mais ce texte s'adresse, je le crois, aussi aux parents. Ça s'adresse aux croyants adultes, à ceux qui ont été adoptés par Dieu le Père. Car avec Dieu, nous avons aussi une relation d'enfant de Dieu avec notre Père céleste. Nous sommes toujours les enfants de quelqu'un d'autre. Et Dieu aussi, il nous parle, il nous enseigne, il nous met en garde. Vous aussi, jeune croyant adulte, écoutez votre Père céleste. Ce texte est pour vous aussi. Est-ce que nous écoutons les conseils de notre Père? Ou est-ce qu'on lui répond « Oui, c'est bien, c'est intéressant, mais je vais faire ma propre expérience et puis à la fin, on fera les comptes. » C'est intéressant, hein? On est tous pareils, on fonctionne tous de la même manière. Il y a alors, certes, ici, la responsabilité des enfants. Écoutez vos parents et mettez en pratique ce qu'ils vous demandent, car ils ont l'expérience de la vie. Mais il y a aussi la responsabilité des parents qui est visée. Enseignez vos enfants et vivez ce que vous enseignez. Et vivez ce que vous enseignez. Ah, c'est plus difficile. Et j'ajoute, dans l'unité de papa et maman. Ne pas vivre ce que l'on enseigne enlève tout le poids de ce que l'on veut transmettre. Avant que je devienne papa, un autre papa à l'église de Rémy-Maison me faisait remarquer que ses enfants regardaient tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient très observateurs. Et puis, au moment où venait l'enseignement du papa ou de la maman, les enfants savaient en tirer avantage. « Oui, mais tu nous dis de faire ça, mais nous, on a remarqué qu'en fait, tu le fais pas. » Là, du coup, votre enseignement, il vaut plus grand-chose. Tous les enfants n'ont pas la chance de grandir avec leurs deux parents. Ici, l'auteur rappelle que l'enseignement, il se fait à deux, le père et la mère, dans l'unité. « Papa, pourquoi tu m'as dit non ? Parce que quand j'ai demandé à maman, elle m'a dit oui. » Ah, être d'accord sur les décisions que l'on prend à deux, être d'accord sur ce que nous enseignons à nos enfants, afin d'être unis. Si maman t'a dit non, alors c'est non, être unis. Car les enfants sont malins pour amadouer les parents. Ils savent tirer avantage du plus faible. Je sais que si je négocie avec maman, je vais avoir un non catégorique. Par contre, avec papa, il y a moyen de peut-être... Puis une fois qu'il aura cédé et qu'il m'aura dit oui, ah là, maman, elle ne pourra plus me dire non. Faut pas sous-estimer, hein. Ça vous fait sourire. Peut-être c'est du vécu. Je ne sais pas. Moi, je suis encore trop jeune pour ça, mais on se prépare déjà avec mon épouse. Soyons unis pour ne pas nous retrouver dans ces situations qui peuvent parfois être source de soucis dans le couple. Mais pourquoi tu lui as dit oui, je croyais qu'on était d'accord. Oui, mais en fait, j'essaie d'être gentil. Oui, mais... Et voilà. Être unis dans le couple. Je fais une petite parenthèse, mais souvent, quand il y a un couple de quelqu'un qui est chrétien avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, j'ai la remarque. Oui, mais pourquoi j'aurais pas le droit de me marier avec quelqu'un qui ne partage pas mes opinions, quelqu'un qui n'est pas chrétien? C'est vrai, c'est une bonne question. Parce que la Bible ne l'interdit pas, en fait, hein, contrairement à ce que je peux entendre parfois. C'est juste que l'apôtre Paul, il fait une recommandation. Il dit, c'est pas souhaitable. Il y a plusieurs arguments au fait que c'est pas souhaitable. Celui-ci en est un. Si le croyant veut enseigner à ses enfants la parole de Dieu, mais que l'autre parent dit, moi, j'ai pas envie. L'enseignement à deux, ça va être beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Je ferme la parenthèse. Éphésiens 6,4, quand j'ai mis ce verset dans mon texte, j'ai beaucoup souri, car quand j'étais jeune, j'avais compris que pour mes parents, l'autorité suprême, c'était ça. Et donc, je me suis dit, parce que j'étais mal intentionné, que j'allais en tirer avantage. Et j'avais appris ce verset par cœur, en fait, le début. « Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants. » Et ça, quand j'avais une discussion avec mes parents et que c'était pénible, je disais « Ah, l'apôtre Paul a écrit en Éphésiens 6,4 « Ne m'exaspère pas ». Mais mes parents étaient plus malins que moi, car ils avaient bien compris le stratagème. « Oui, mais tu ne cites qu'une partie du verset, là. Tu ne le dis pas en entier. » Élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Ah, celle-là, je n'ai pas voulu la prendre par cœur. Élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que ce n'est pas une éducation par la force. C'est une éducation qui est conforme à l'Écriture. Ce n'est pas une éducation qui est conforme à notre propre volonté. Ça change les choses. Alors, qui écouter ? Peut-être peut-on écouter les influenceurs. Alors, le texte est petit parce qu'il est assez long, j'ai essayé de le mettre en entier. Et je vais le lire d'une certaine manière, vous comprendrez pourquoi. Proverbe 1, versets 10 à 19. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent « Viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons sans raison un piège à l'innocent, nous l'engloutirons tout vif comme le séjour des morts, il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas de biens précieux, nous remplirons nos mains de butin. Tu en auras ta part avec nous, nous ferons tous bourse commune. » Mon fils, ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les chemins, les mêmes chemins qu'eux, car ils se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang, mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. En vérité, c'est au péril de leur propre vie que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent des pièges. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. Hashtag Dubaï. Hashtag argent facile. Hashtag vie parfaite. Hashtag pas de soucis. Hashtag beauté. Hashtag filtre. Hashtag conseil. Mais conseil de quoi ? Les réseaux sociaux ont vu naître une nouvelle catégorie de personnes, les influenceurs. Et j'avais lu une étude qui montrait que beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand on leur demande à l'école qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, sort ce nouveau fameux métier influenceur. Bon. Alors, les influenceurs, ils recouvrent toutes sortes de catégories de personnes. Quand ça va être des plus jeunes, ça va souvent être des joueurs de jeux vidéo. Fortnite, Roblox, Minecraft. Voilà, tous les jeunes, je pense qu'ils ont capté de quoi je suis en train de parler. Puis, quand on grandit, les influenceurs, ils deviennent autre chose. Déjà, ils deviennent des arguments de vente. Collaboration commerciale, écrit en petit à côté de la vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit, etc. Et puis si vous rentrez mon code, vous avez 15%, etc., etc. Et puis d'autres vont vous proposer, c'est ceux que j'ai le plus vus, mais alors ça dépend peut-être de mon âge, c'est des conseils pour devenir riche. Si tu vis ça dans ta vie, alors j'ai un bon conseil pour toi. Achète mon cours que j'ai construit, si tu veux en savoir plus, il y a une offre spéciale pour devenir heureux. Avoir en scrollant des conseils en tout genre d'autoproclamés spécialistes ayant acquis une expérience qu'ils veulent te vendre, y compris s'ils ont 18 ans. Oui, j'ai 18 ans, j'ai vendu mon premier appartement il y a 2 ans, t'étais mineur, qu'est-ce que tu racontes ? Enfin bon, bref. Et puis évidemment, les solutions qu'ils te vendent, parce qu'ils ont compris toute la vie et comment faire, ils te les vendent hors de prix. Et des gens achètent, parce qu'ils y croient. Ils disent « Mais lui, il a réussi, alors pourquoi pas moi ?» Mais les influenceurs peuvent être en dehors des réseaux sociaux. On peut les retrouver à l'école, avec un copain qui entraîne les autres avec lui. On peut les retrouver au lycée, on peut les retrouver à la fac, toujours sous des formes variées, mais qui sont en accord avec notre âge. Ce sont ceux qui t'embarquent dans des attitudes absurdes. Car ce qu'il y a à la clé, c'est d'être accepté des autres. En fait, c'est le but recherché par bon nombre de personnes, hein. La reconnaissance, être considéré dans un milieu, être dans le groupe et pas en dehors. Parce que si on est en dehors, c'est là qu'on est moqué, c'est là qu'on vit les problèmes. Alors, qui écouter ? Sagesse ne rime pas avec mauvaise fréquentation. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ? De l'argent ? Ok, allez, à la limite. Mais à quel prix ? Celui de sa propre vie, nous dit le texte. Voilà le sujet même du péché. Désobéir à Dieu pour obtenir des richesses périssables. Pensez au sermon sur la montagne. On ne peut pas servir de maître, etc., par exemple. Ou alors les richesses semblables à la rouille, pour se croire libre, mais en fait être esclave. La richesse vous fait croire que vous êtes libre, car on peut tous payer. Mais plus on en a, plus on en veut. L'argent qui ne devait être qu'un moyen est devenu un mauvais maître. On ne peut pas servir de maître, non. Alors, on peut entendre parfois « En faisant ça, j'ai gagné ma vie. » Mais en fait, tu l'as perdue. Car celui qui croira sauver sa vie, la perdra. Même si le choix est difficile, il vaut mieux perdre des amis que de perdre sa vie. Combien de fois, quand je faisais des préparations au baptême, m'a-t-on dit, j'ai décidé de couper avec des gens que je croyais être mes amis, mais qui en fait avaient une très mauvaise influence sur moi. C'est courageux, hein ? C'est courageux d'entendre ça de la part de jeunes. Mais ô combien nécessaire, parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient rien à gagner à traîner avec ces gens-là. Est-ce que cette relation est bonne ? Est-ce qu'elle a une bonne influence sur toi ? Ou est-ce qu'elle est mauvaise ? C'est une question importante qu'il faut se poser. Face à de telles dispositions, être sage, c'est savoir dire non. Être sage, c'est savoir dire non. Ta conscience te le rappelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le livre des Proverbes a un parallèle très fort dans le Nouveau Testament. Et j'avais écrit ça avant de le savoir, avant qu'on m'en informe. Son penchant dans le Nouveau Testament, c'est l'épître de Jacques. Et j'ai appris que les jeunes, c'était l'épître que vous alliez travailler. Eh bien, l'épître de Jacques est construite de la même manière que le livre des Proverbes. C'est la même structure, le même fonctionnement, avec des conseils dedans, des exhortations que l'on retrouve dans le livre des Proverbes. Et ça, c'est intéressant. Car qu'est-ce que dit Jacques ? Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Fais le choix de la sagesse. Pas le choix du monde de ceux qui t'embrillent, qui t'amènent dans un groupe pour te faire croire que t'es cool. Car c'est cool à l'instant, mais plus tard, ça sera beaucoup moins cool. Qui écouter ? Qui écouter ? Alors peut-être peut-on écouter après les parents et les influenceurs la sagesse. Et lisons la suite. Je vais lui aussi le lire différemment. Chapitre 1, versets 20 à 33. La sagesse crie bien haut dans les rues, sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre ses paroles disant « Gens sans expérience, jusqu'à quand vous complairez-vous dans votre inexpérience ? Et vous, moqueurs, jusqu'à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer ? Et vous, insensés, jusqu'à quand détesterez-vous la connaissance ? Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan et que la détresse et l'angoisse vous assailleront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. puisqu'ils ont détesté la connaissance et qu'ils n'ont pas choisi de craindre l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien, ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus cassé de leurs propres projets. Car la présomption des gens inexpérimentés causera leur mort et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur. Ça calme, hein ? Ici, la sagesse est personnifiée. C'est la première fois dans le livre des Proverbes que ça arrive, mais elle le sera encore dans les chapitres 8 et 9. La sagesse personnifiée, c'est Jésus-Christ. C'est ce que dit l'évangile de Matthieu au chapitre 11, ou c'est ce que dit encore Paul en 1 Corinthiens 1. Elle ne parle pas dans le secret comme j'ai fait tout à l'heure. Elle crie, elle n'a pas honte, elle n'a rien à cacher, contrairement à d'autres qui chuchotent. Ne le dis pas aux autres. Garde-le pour toi. Lorsque nous présentons cette sagesse au monde, est-ce que nous la cachons? Est-ce que nous en avons honte? Est-ce que l'on chuchote « Hey, psst, j'ai une bonne nouvelle pour toi » ou est-ce qu'on le dit ouvertement? Le Seigneur, dans son amour, te sauve de la colère de Dieu et de la juste condamnation. Il y a un texte qui m'a toujours fait froid dans le dos. Je ne l'ai pas écrit là, c'est le Seigneur qui le dit. « Si vous avez honte de moi sur terre, j'aurai honte de vous dans le ciel. » Celle-là, faut la prendre. Hein. Jean 3, versets 19 à 21. « Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, comme la sagesse. » Mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, ils ont préféré l'inexpérience, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien de venir à la lumière, de peur que ses actes soient révélés. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière, pour qu'on voit clairement qu'il accomplit ses actes dans la communion avec Dieu. Alors, on peut avoir la flemme vis-à-vis de la connaissance. On peut en être désintéressé, parce qu'il y a plus intéressant. Ah oui, notre dose de dopamine par le divertissement continu du scroll. On préfère apprendre par soi-même, sans considérer les avertissements. Oui, bon, j'ai entendu, mais je vais tester quand même pour voir si ce qu'on a dit, c'était vrai ou pas. On peut aussi se moquer de ceux qui considèrent. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, et peut-être ça dépend de l'école, j'en sais rien. Mais moi, quand j'étais adolescent, il ne faisait pas bon d'être l'intello de la classe. L'intello de la classe, ah, c'était le faillot, c'était celui qui n'était pas cool comme les autres, et puis il valait mieux être dans le clan de ceux qui sont moyens, médiocres, parce qu'ils sont cool, ils font plein de trucs. Ils ne sont pas tout le temps dans leurs livres et dans leurs machins. Et ouais, se moquer de ceux qui réussissent. Sauf qu'en grandissant, c'est lequel qui va pouvoir se moquer de l'autre. L'attitude de la sagesse à l'égard de ceux qui se moquent de ses conseils le prouve. C'est pas un rire cruel, mais c'est une attitude face au ridicule que représente la situation, celle de choisir sa propre destruction, alors que la sagesse propose le bonheur. Deutéronome 30. Je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Choisis le bonheur. N'est-ce pas le choix que tout le monde souhaite faire? Pourtant, ce n'est pas le choix que les gens font. Et je trouve ça marrant de faire volontairement le choix de ne pas choisir le bonheur pour après ne chercher que des vidéos sur Internet qui vont essayer de te proclamer le bonheur. Il y a de quoi rigoler, hein? Devant la tristesse de la situation. C'est ridicule. Alors comment devenir plus sage? En étudiant les écrits où la sagesse est consignée, Ah, j'y reviens toujours, hein. Tu veux être heureux? Bah, c'est là-dedans. Voilà, la clé. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Rejeter ses paroles, c'est rejeter la sagesse. C'est rejeter Dieu lui-même. En Romains 1, qui est un texte très très fort, je trouve, voici ce que l'apôtre écrit. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le lui aurait en fait connaître. Dieu s'est fait connaître au monde. Hein. Quand on dit oui, mais Dieu, est-ce qu'on peut vraiment le connaître? Bah oui. Dieu s'est fait connaître. Dieu lui-même le en fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, c'est notamment sa création, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres. Ses œuvres, c'est quand on va s'émerveiller quand on va en vacances à la montagne, s'émerveiller quand on va en vacances à la plage, s'émerveiller devant l'infiniment petit, le microscopique, ce qui relève de l'atome, ou s'émerveiller de l'infiniment grand, le système solaire, ses galaxies innombrables, etc. Toute la création du Seigneur immense. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ne pas écouter la sagesse conduit à des actes qui peuvent être lourds de conséquences pour ceux qui les commettent. Ici, c'est la mort. Ce n'est pas caché. Mais l'inverse, c'est important de le dire, marche aussi. Écouter la sagesse apporte bien des avantages, comme habiter en sécurité et vivre tranquille sans redouter le malheur. N'est-ce pas ce que l'on recherche en fin de compte? En conclusion, après qui écouter, je change ma question. Qui écouteras-tu? Le texte d'aujourd'hui présente trois options. Tes parents, les influenceurs ou la sagesse. Tu peux en cocher plusieurs. Écouter ses parents est important parce qu'ils ont vécu ce que tu n'as pas encore vécu. Leur expérience et leurs conseils sont une précieuse richesse que tu ne dois pas négliger. Parents, votre responsabilité est engagée, avant tout, celle d'écouter votre Père Céleste et d'obéir à la sagesse personnifiée, Jésus-Christ, mais également la responsabilité d'enseigner vos enfants et de vivre selon la volonté de Dieu consignée dans sa parole. La voie la plus facile, celle qui mène à la perdition, c'est d'écouter les influenceurs, ceux qui veulent tout gagner, mais qui, dans la réalité, vont tout perdre. N'écoute pas ces gens-là. Ils te font croire qu'ils veulent ton bonheur, mais en réalité, ils veulent juste croire qu'ils auront le leur. Ils te font croire qu'ils veulent ton bonheur, mais en réalité, ils veulent juste croire qu'ils auront le leur. Inutile de vous dire que c'est un leurre. Enfin, écouter la sagesse est un impératif pour ne pas se perdre et ne pas perdre sa vie. Car elle est la source de bien des avantages pour toi. Acquérir la sagesse, c'est aussi la partager à ceux qui en manquent, sans orgueil, mais dans l'amour. En considérant l'autre, en faisant preuve de bienveillance, en faisant preuve d'humilité, et en acceptant de recevoir aussi des conseils des autres, même des plus jeunes. Un jour, on m'a dit « T'as pas trop peur d'être un pasteur un peu trop jeune ?» Mais que dit Paul à Timothée? Que personne ne méprise ta jeunesse. Et oui, même les jeunes, ils peuvent nous enseigner des choses. Je le crois. Les plus jeunes peuvent nous dire des phrases qui vont nous faire tiquer. Ils disent, ah, c'est vrai, il a raison. Ta responsabilité, je m'adresse à tous, est engagée. Refuser d'écouter n'est pas sans conséquence sur ta vie d'aujourd'hui et celle de demain. Alors, qui choisis-tu d'écouter? Qui choisis-tu d'écouter ?